Vous écoutez l'épisode 117 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial pour tous ceux qui veulent démarrer la rentrée du bon pied. Vous possédez un Chromebook ou l'utilisez, le navigateur Chrome, alors cet épisode est fait pour vous. Nous allons nous plonger dans le monde des extensions, des applications et des méthodologies qui transforment votre expérience d'apprentissage et de travail. Que vous soyez étudiant, enseignant ou professionnel, ces outils nous aideront à optimiser votre productivité et à rendre votre rentrée plus fluide que jamais. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné d'Olivier. Bonsoir Olivier, comment vas-tu ce soir?
Et bonsoir à tous, je vais très bien.
Bah, c'est très bien. Alors ce soir, c'est un épisode qu'on a réfléchi déjà depuis un petit moment. On a énormément d'extensions, d'applications, de méthodologies à apporter. Olivier, tu as été une mine d'informations et d'aide. C'est presque toi qui as fait tout le conducteur. Tu as tellement d'idées que ça va être juste génial. Vous allez apprendre plein de méthodologies hyper intéressantes pour travailler, mais au maximum. Mais avant d'apprendre tout ça, on tenait, Olivier et moi, à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien et pour avoir pris le temps d'écouter nos épisodes passés, mais aussi cet épisode et les futurs épisodes. Alors, si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez ce qu'on vous propose, je vais vous inviter à nous soutenir sur patreon.com/mychromebook à hauteur de quelques euros par mois, pas grand-chose, à hauteur de ce que vous pouvez. Et puis, évidemment, vous le savez, votre soutien, ça nous aide beaucoup et ça nous aide beaucoup à continuer à produire toujours et trouver de nouveaux contenus. Et j'espère que ces contenus sont la qualité que vous espérez. Et bien sûr, tous les prochains épisodes, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers nous pour nous donner des super sujets à travailler. On est preneurs d'idées, de personnalités à interviewer, par exemple. Ça peut être très intéressant. Je ne sais pas, Olivier, si tu as écouté l'épisode d'il y a 15 jours, si tu as plu ou pas. On m'a chuchoté à l'oreille Johan. Donc, je l'ai appelé et il est venu vers nous. Alors, si vous trouvez tous ces épisodes hyper utiles, partagez-les sur les réseaux sociaux. Faites-les découvrir à vos amis, vos collègues. Mieux encore, s'ils écoutent des podcasts, moi, ce que je fais avec tous ceux que je connais, je vais sur l'application de podcast et je les inscris de force au podcast que j'aime, moi, pour faire progresser mes podcasts. Alors, si vous nous aimez à ce point-là, n'hésitez pas à aller les forcer à s'inscrire et ils vont tomber dessus et je suis sûr qu'ils vont apprécier les épisodes qu'on vous propose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Est-ce que tu es comme moi à forcer les gens à écouter des podcasts?
Je force pas, mais je les incite furieusement. et notamment les épisodes que tu as fait, les interviews. Alors, effectivement, le dernier avec cette personne de chez Ozint, là, qui était très, très intéressante. Et puis, j'ai aussi en mémoire l'invité que tu avais eu, le prof de techno, là, pour un super épisode. Marc. Donc, c'est des épisodes que je partage goulûment.
Eh bien, écoute, faites comme Olivier, partagez. Avant, on fait un petit tour de table. On remercie tous ceux qui sont déjà là. Mister Robot, jeu et programme sous Linux, bienvenue à toi. Olivier, bienvenue. Didier, bien sûr. Bienvenue, Didier. J'ai vu Jean-Luc tout à l'heure, live Athenium. Et puis, Alain, merci d'être tous présents encore une fois ce soir pour nous soutenir. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations dans le chat, laissez-nous vos petits commentaires. Et puis, si on les voit passer, on n'hésitera pas à aborder le sujet. Évidemment, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dans notre sujet du jour qu'on va forcément en oublier. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. Et puis, si on ne peut pas y répondre tout de suite, on y répondra un petit peu plus tard. Vous inquiétez pas. Avant, je crois qu'on a fait le tour, Olivier, des présentations. On y va, on fonce dans le vif du sujet parce qu'on a, on a une gestion de temps à travailler. Tu sais, je ne suis pas très bon, je parle beaucoup. Et on n'a qu'une heure. Et va falloir apprendre à gérer le temps. Et ça tombe bien dans le travail, dans l'école. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est d'apprendre à gérer le temps. Alors moi, je ne sais pas comment tu le fais, Olivier. Je vais te donner déjà mon premier petit point que j'utilise assez fréquemment et que vous allez peut-être apprécier et qui fonctionne surtout, évidemment, les Chromebooks. On est un podcast qui parle principalement des Chromebooks de Chrome OS, mais de Chrome et de Google. Et donc, cette fonctionnalité, je l'utilise énormément parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, régulièrement, j'ai besoin de prendre des rendez-vous avec des gens. Je leur envoie un mail en leur disant, on peut se caler un rendez-vous, sauf que je ne veux pas leur définir le rendez-vous directement parce qu'ils ne sont pas forcément disponibles. On ne va pas passer des heures à parler de leur disponibilité et des miennes. Donc, je leur envoyais tu connais sûrement, Mon Calendly. Tu sais, c'est une page web où je mets mes créneaux de disponibilité, puis les gens prennent l'heure et la date à laquelle cela leur convient. Aujourd'hui, je suis très content de vous dire que je ne l'utilise plus, déjà parce qu'il y avait une version payante, et puis c'était pas forcément quelque chose que j'utilisais vraiment tout le temps, donc j'étais pas prêt à le payer. Et maintenant, j'utilise Google Calendar. Tu l'as vu passer, cette nouvelle fonctionnalité dans Google Calendar, Olivier ?
Oui, super pratique parce que effectivement, ça permet de proposer des créneaux de libre que l'on peut avoir pour un rendez-vous, pour une visio ou autre, sans avoir à les recopier comme on pouvait le faire dans Calendly. Ouais. Du coup, ça on gagne en fluidité à partir du moment, bien sûr, où on utilise uniquement Google Calendar, qu'on n'est pas obligé, de par son entreprise, de travailler avec Outlook ou compagnie. Mais cette fonction est vraiment, vraiment pratique.
Ouais. Ouais, et ce qui est génial, c'est qu'elle est liée à tous tes calendriers. Donc, tu crées ton planning de plage de rendez-vous. Et puis, si par exemple, il y a dans la famille, tu as un rendez-vous médical, enfant, ou je ne sais pas quoi, qui vient se greffer, automatiquement, ça va enlever dans ton plage, dans toutes tes plages, ça va enlever le rendez-vous. Donc, il ne mettra plus disponible. Donc, personne ne pourra prendre un rendez-vous pour toi ou avec toi sur ta plage de rendez-vous fixée. Donc, si vous ne l'utilisez pas encore et que vous aimeriez l'utiliser, c'est simple. Hein, vous allez sur Google Calendar, vous faites un nouveau rendez-vous et puis là vous avez la possibilité de créer votre agenda et c'est vraiment hyper pratique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez le partager, que vous pouvez le modifier à tout moment, créer différents types de créneaux, par exemple des rendez-vous plus bureau, plus terrain, ou enfin peu importe le type de bureau, le type de rendez-vous que vous voulez, et ça marche vraiment parfaitement bien. C'est totalement intégré aux outils Google. Alors évidemment, comme tu le dis, Olivier, si vous êtes sur Outlook ou enfin sur les outils Microsoft, peut-être que c'est un peu plus compliqué, quoi qu'on peut peut-être trouver des passerelles. Je chercherai, tu me l'avais demandé d'ailleurs, je chercherai
si on en avait parlé entre les deux. Ouais. Effectivement, on peut récupérer le contenu du calendrier Outlook, par exemple, sur le calendrier Google, mais c'est pas super fluide et la mise à jour est pas faite en temps réel. Je pense qu'il faut qu'il y ait un contact serveur qui se fasse régulièrement. La temporisation entre deux mises à jour, je ne la connais pas, mais elle est lente et c'est pas fluide, c'est pas pratique. Donc effectivement, ça reste un frein important.
Oui. Bon, on va chercher, on va trouver. J'en ferai un article si jamais j'ai trouvé une solution intéressante pour vous tous. Donc, allez voir, testez, dites-le nous. Et Mister Robot nous dit, avec un tel outil, plus possible de dire qu'on a oublié. Oui, ça devient compliqué de louper ces rendez-vous avec ça. Bon, j'ai toujours des solutions, hein, t'inquiète. Hein.
Oui, en fait, on avait voulu... c'est vrai que je reviens un peu au début de la création, de la genèse de l'épisode. C'est vrai qu'on avait voulu créer un épisode de podcast pour la rentrée, parler des outils, parler des différentes solutions, c'est des choses qui ont été faites. Le contenu du cartable, on l'a fait pour le contenu du sac à dos pour l'été, ce qu'on voulait, c'était aussi proposer des méthodes d'organisation, des façons de voir la rentrée de façon un peu différente, de voir comment on pouvait s'organiser et puis être un peu mieux organisé pour sa rentrée, et puis aussi éviter de faire uniquement un épisode sur la rentrée des étudiants et des scolaires. On a voulu élargir le débat et parler de la rentrée de tout le monde, la tienne, Nico, la mienne, et puis celle de tous les auditeurs, parce que forcément le mois de septembre représente toujours un nouveau démarrage dans l'année, et donc l'idée c'était aussi de reparler de toutes ces astuces d'organisation qu'on a pu glaner à droite à gauche. Donc oui, la deuxième astuce, effectivement, c'était la méthode Pomodoro. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est quand même relativement connu, hein. C'est une façon de pouvoir gérer son temps dans la journée, gérer ses cycles finalement de travail et surtout rester focus sur son travail. Alors, tout le monde ne fonctionne pas vraiment de la même façon, hein. Tout le monde n'a pas le même rythme, c'est-à-dire que certains peuvent rester focus sur une tâche pendant une demi-heure, pendant 40 minutes, d'autres ça va être un peu plus long, pendant une heure et demie. Bref, l'idée en fait de la méthode Pomodoro, c'est de tout éteindre, à part la tâche que l'on est en train de faire, et de rester concentré sur cette tâche pendant une durée donnée, une demi-heure, 40 minutes, une heure, et au bout d'un certain temps, de faire une petite pause, simplement aller respirer, aller boire un verre d'eau, et puis s'y remettre pour un deuxième cycle, pour un deuxième temps de une demi-heure, 40 minutes ou une heure. Et pour mesurer, pour chronométrer, entre guillemets, ces différentes petites sessions de travail, il y a des outils pour ça. Il y a de nombreuses extensions sur Google, il y a de nombreuses applications sur le Play Store qui permettent justement donc de chronométrer ce temps de travail pendant, pendant le temps qu'on a défini. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se focusser pendant, pendant un certain temps, pendant ce laps de temps, et puis au fur et à mesure de la journée, ben, on multiplie ce nombre de temps de travail avec des petites pauses au départ, des grosses pauses entre tous les deux laps de temps, pour pouvoir finalement rester en bonne forme, j'allais dire, pendant toute la journée.
C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que cette méthode, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'elle est dans les années 80, dans ces eaux-là. Et comme le dit Jean-Luc, c'était au départ celui qui l'a inventé. Je l'ai plus en tête. C'était des pauses de 25 minutes. On travaille à fond pendant 25 minutes. On se pose pendant, je crois, 5 10 minutes.
Minutes. Après 25 minutes, et on avait 10 à 15 minutes de pause toutes les deux pauses de Pomodoro. Moi, j'ai essayé différents timings. C'est vrai que moi, j'ai peut-être plus de facilité à rester focusé, mais moi, je travaille par session, par séance, j'allais dire, d'une heure, et ça me va bien. Ça me va bien, j'arrive à rester focusé pendant une heure.
Et ce qui est assez intéressant dans ça, c'est vraiment de se concentrer sur un seul produit. Et c'est un peu la problématique de notre siècle, enfin les quelques années qui viennent d'arriver, où on est sollicité en permanence avec tous nos outils et on a beaucoup de mal à rester focus. Donc c'est bien de tout couper, comme tu disais, Olivier, de couper, on pourra en parler plus tard, mais des notifications sur ton smartphone, voire carrément de pas garder ton smartphone près de toi. Il y a des études qui expliquent que c'est pas bien de le garder près de toi, en fait. Et donc, tu le disais, pour ce faire, bon, on a des extensions. Alors moi, j'ai noté Clockify, c'est une extension Chrome, c'est un timer, hein, tout simplement. On a aussi des extensions qui te permettent de passer un temps. Alors, je l'ai plus en tête, Forest quelque chose. Tu sais, tu fais pousser. Ah bah si, on l'a noté en plus. Forest, Stay Focused. C'est en fait, tant que tu restes focus sur ton truc, il y a un arbre, il pousse, et puis après, ça devient des forêts. Et plus tu restes concentré sur ton travail, et plus tu as une belle forêt. C'est un peu le Tamagotchi, mais tu le nourris avec ton travail.
Oui, forêt, je crois, c'est que si tu retouches ton smartphone et que tu fais autre chose, l'arbre meurt. C'est ça. On a trop souffrance. Pour répondre à Didier qui dit halte aux cadences infernales, j'aime beaucoup son commentaire. Non, l'idée, c'est pas non plus d'avoir des cadences infernales, c'est vraiment de se concentrer sur un truc et de ne pas se laisser envahir par les notifications, par les collègues aussi qui viennent te voir pour papoter de leur week-end ou par une sollicitation pour boire un énième café à la cafette. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avancer dans son travail pour pouvoir finalement finir plus tôt le soir, pourquoi pas.
Pas effectivement, et moi j'accompagne cette technique. Alors, moi, c'est pas 25 minutes, c'est un petit peu plus. J'arrive à être focus un peu plus que ça, mais pas moi. J'arrive pas à une heure personnellement. Au bout d'une heure, j'ai déjà fait 15 tours sur ma chaise. Enfin, je suis un peu, vous le voyez, je bouge beaucoup. Et du coup, pour arriver à me concentrer, moi, j'utilise une extension sur mon Chromebook qui s'appelle Noxly. Ça te crée un bruit blanc. En plus sur ton ordinateur, donc un bruit blanc, c'est ce qu'on met aux enfants pour qu'ils s'endorment bien, c'est le battement de cœur de la maman, donc les enfants en bas âge, mais ça marche encore quand t'es adulte, hein. Et alors moi, je prends pas des battements de cœur, mais sur cette extension, je sais pas si tu l'as vu, mais tu peux écouter des bruits de forêt, des bruits de rivière, des bruits d'oiseaux, des bruits de bureau, enfin t'as toute une tonne de bruits différents
qui vont à la pluie.
C'est ça. Alors moi, j'utilise pas la pluie, la rivière, parce que j'ai vite envie d'aller aux toilettes après. Donc du coup, ça non. Mais toutes les autres, j'aime bien les bruits de ville, moi. Bizarrement, ça me permet de me concentrer et de pas penser à autre chose. Parce que quand j'ai pas de bruit autour de moi, j'ai vite tendance à aller chercher un bruit, lequel, je sais pas, n'importe lequel. Et là, mon smartphone devient mon meilleur ennemi. Et je vais tout de suite aller scroller sur un TikTok, sur un Insta ou je sais pas quoi, alors que j'en ai pas du tout besoin. Mais moi, voilà, j'accompagne ces deux techniques là, la méthode Pomodoro avec les bruits blancs, moi, pour rester focus complètement. Ou alors j'écoute de la musique, mais on pourra en parler de plein. Je ne sais pas si tu rajoutes quelque chose en plus de cette méthode ou tu arrives à être focus pendant.
Non, j'ai pas besoin de son en particulier. Oui, je fais comme Mister Robot, comme l'indique Jean-Luc dans les commentaires. Ouais. Il suffit d'ouvrir la fenêtre parfois pour avoir ce bruit blanc. Moi, c'est vrai que ça me suffit. J'ai pas forcément besoin de bruit comme toi pour pouvoir. Rester concentré, non.
Ouais. Bon, bah, voilà. Après,
le bruit blanc, automatiquement, ça me fait penser à la neige sur les tubes cathodiques de quand on était gamin, la nuit ou quand on captait pas les chaînes. ce bruit était, enfin voilà. Pour moi, le bruit blanc, c'est ça, quoi.
Ça fait peur, quoi. C'est pas.
Non, ça fait pas peur. C'était un bruit sans son. Enfin, c'est bizarre. Hein. C'était ce chuintement là qui était assez typique, ouais.
Ouais. Mais bon, intéressant. Donc deux techniques. A priori, ça vous fait réagir dans le chat, donc n'hésitez pas. Hein. Non, Jean-Luc, je ne déménagerai pas. J'aime bien la nature où je suis autour de chez moi. Mais quand je travaille, j'aime bien avoir un peu de bruit. Donc c'est ça c'est plutôt intéressant. Une autre méthode que tu utilises pour organiser, pour réussir ton organisation, Olivier, tu nous as parlé de GTD. C'est un nouveau jeu vidéo ?
Non. Alors, rien à voir avec Gran Turismo ou quoi que ce soit. Alors, c'est une méthode que j'ai explorée, que je n'utilise pas forcément. J'en ai extrait deux, trois principes. Mais GTD, c'est une des premières méthodes d'organisation connues, entre guillemets. C'est donc la méthode Getting Things Done, avec mon superbe anglais. Donc, il y a une méthode d'organisation qui a été traduite en français par « S'organiser pour réussir » et qui est un livre à l'origine de David Allen. Et la chose que j'ai retenue principale, finalement, de cette méthode, c'est si vous avez une tâche qui va vous prendre moins de 2 minutes, n'attendez pas, faites-la tout de suite, comme ça vous en êtes débarrassé. Et il y a plein d'autres principes dans cette méthode qui sont assez intéressants, qui pour moi sont un peu archaïques et puis surtout super psychorigides, mais ça a eu le mérite d'exister et puis de lancer, j'allais dire, des réflexions autour de l'organisation du temps de travail et du temps qu'on a pour pouvoir faire un maximum de choses si on en a besoin. Mais comme je le dis, c'est une méthode qui était très très figée, très psychorigine, c'est vraiment le cas de le dire. Et par contre, il y avait cette notion des tâches qui prennent moins de 2 ou 5 minutes, peu importe, que l'on doit faire tout de suite pour s'en débarrasser et puis surtout pour, j'allais dire, évacuer la tâche de son cerveau, quoi.
Ouais, mais c'est une technique que j'utilise beaucoup, beaucoup. Alors ouais, 2-5 minutes, enfin une tâche très rapide à faire, et je la trouve hyper gratifiante. Tu vois, si t'as, on en reparlera, mais on peut faire des listes de tâches à faire le matin, tout ça, et moi je les note dessus. Et c'est bête, hein, mais je note sur les tâches à faire, même des tâches qui vont me durer 2 minutes pour avoir la satisfaction de la rayer. Et ça me donne l'impression d'aller vraiment travailler et d'avancer dans ma journée de travail, alors qu'en fait ça m'a pris 2 minutes. Mais si je l'avais gardé, peut-être qu'en fin de journée je me serais dit, oh, je la ferai demain, c'est 2 minutes, c'est bon, voilà. Et finalement cette tâche, elle va revenir, elle va être redondante. Et ouais, moi j'aime bien fais-le tout de suite si tu peux le faire, et derrière, ouais, c'est hyper gratifiant à la fin de ta journée, tu te dis, ah ouais, j'ai fait tout ça. Bon, en fait tu as travaillé 15 minutes, hein, vraiment, mais oui, j'ai fait tout ça. Et je trouve ça bien.
C'est surtout valable pour les mails, par exemple, parce que souvent on prend sa boîte mail, il y a plein de mails, on fait un premier tri, on en vire, et puis on arrive sur des petits mails qui nécessitent juste une petite réponse ou juste un transfert ou simplement de l'archiver. Bah, parfois ça peut faire du bien aussi de vider sa boîte mail comme ça en faisant une série de toutes petites actions qui peuvent libérer du temps et puis surtout libérer du temps de cerveau disponible, comme diraient certains.
Certains, oui, effectivement. Eh ben, du coup, quand on parle de temps, quand on parle de faire vite, rapidement, quand on dit de faire que c'est urgent, il y a forcément quelque chose qui nous vient en tête immédiatement, Olivier. C'est une fameuse matrice que vous connaissez peut-être tous, la matrice d'Eisenhower. Pas le nouveau film de Nolan, n'a rien à voir, hein, mais qui nous permet de gérer nos tâches en fonction de l'importance et de l'urgence. Et tu me disais l'utiliser, mais tout le temps.
Alors ça, par contre, ouais, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. L'idée, c'est bah, parfois on a le sentiment d'être débordé parce qu'on a plein de choses qui nous arrivent, plein d'entrées, plein de tâches à réaliser. Et moi, je prends toujours un minimum de 5 à 10 minutes où je prends ma liste de tâches et puis je vais réfléchir pour chacune à savoir si cette tâche est urgente, importante, est-ce qu'elle n'est ni urgente ni importante. Bref, il y a ce classement en 4 cadrans, urgent, important, urgent, non urgent, important, non urgent, non important, et puis urgent et non important. Bon, bref, vous avez compris la logique. Et l'idée, l'idée, c'est finalement de classer les tâches dans ces quatre rubriques surtout d'identifier les tâches urgentes et importantes et non urgentes mais importantes. Pourquoi ? Parce que bah, finalement, les autres, globalement, on va essayer de s'en foutre un maximum. Les tâches non urgentes et non importantes, bah, globalement, faut les virer, quoi, faut les supprimer. Autant que possible, bien sûr, sauf si c'est le patron qui le demande, mais bon. Les tâches urgentes mais pas importantes, bah, c'est essayer aussi de les écarter en les déléguant, par exemple, en les refilant à un petit copain de bureau. Par contre, les tâches urgentes et importantes, bah, il faut s'y atteler tout de suite, faut vraiment commencer par ça, et planifier les tâches non urgentes, mais importantes, c'est-à-dire les mettre dans son calendrier, bloquer un temps pour pouvoir les réaliser. Le principe du time blocking chez nos amis anglo-saxons. Donc on va bloquer effectivement un créneau horaire pour réaliser cette tâche non urgente mais importante. Typiquement, toi Nico, tu fais des articles de blog, ça fait partie des choses importantes pour toi. C'est pas forcément urgent non plus parce que c'est pas vital, mais par contre, bah, tu vas bloquer certains créneaux pour pouvoir les réaliser, pour être sûr de les réaliser et qu'elles soient faites in fine à la fin de la semaine, quoi.
Ouais, c'est ça, j'utilise un peu. Je l'utilise pas directement comme ça, mais au final, le résultat est tiré de cette matrice où, effectivement, sur mes articles, sur bah, le podcast, tu vois, je l'ai mis dans la préparation. Il fallait qu'elle soit finie à un temps donné puisqu'il fallait qu'on échange entre nous. Donc, je l'avais placé dans une des cases important, mais pas forcément urgent. Après, faut attention, définir l'urgence. Si j'attends, à un moment, elle va changer de case. Il va devenir important et urgent parce que si 3 minutes avant le podcast, on n'a rien préparé, ça craint. Donc, du coup, c'est pas figé dans le temps aussi, cette matrice. Tu peux prendre un élément, il peut être important, pas urgent hier, et d'un seul coup devenir urgent. Et donc, il faut aussi qu'il soit flexible. Et c'est un peu le truc qui est intéressant. Et moi, je planifie pas mal de choses. La plus grosse difficulté que j'ai, c'est de m'y tenir, en fait. J'ai des choses qui sont importantes à faire, mais quand elles sont pas urgentes, j'arrive à les remettre au lendemain, un peu trop facilement d'ailleurs. Et je suis en train de me soigner hein, pour ça, pour que je puisse les traiter quand même dans un temps à partie correct. Et là, en y pensant, j'ai oublié de faire quelque chose la semaine dernière qui était très important. demain, il va devenir important et très urgent que je le fasse. Voilà. Il faudra qu'il soit fait dans la journée, par exemple.
C'est pour ça que finalement, l'idée, c'est que quand tu l'identifies, c'est de la mettre dans l'agenda, finalement, bloquer un créneau pour pouvoir être sûr que de la faire, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je passe souvent mes tâches à la moulinette de cette matrice, tout simplement parce que ça me permet d'élaguer énormément et d'en faire moins, finalement, parce que j'arrive à en virer parfois les deux tiers, quoi. Que finalement, avec le recul, je me dis, bah non, enfin, c'est pas important pour moi, autant la faire par quelqu'un d'autre ou autant s'en débarrasser carrément.
Et il existe des extensions, je ne sais pas si tu savais, Chrome, qui te permettent de définir, en tout cas au début, si tu n'es pas encore très à l'aise avec important, urgent, pas important, de définir ceci et de le placer dedans. Et cette extension, elle est plutôt bien faite. Hein. C'est exactement la matrice d'Eisenhower, hein, le carré coupé en 4 façon logo Windows. Et il va t'aider à le faire et puis à te rappeler les tâches au fur et à mesure. Le temps, tu vois, que tu arrives à maîtriser cet outil. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc, évidemment, tout ce que je vous dis, tout ce qu'on vous dit, hein, il y aura dans les notes de l'émission, il y aura tous les liens. Donc, ne les demandez pas tout de suite, je ne vais pas vous les copier dans le chat. Je vous mettrai le lien du conducteur. Et vous verrez, il y a tout, tout, tout. Nickel, merci. Alors, la matrice Eisenhower, le time blocking, tout ça, t'en fais quoi après? Tu mets dans un journal et il y a un truc qui est hyper à la mode et je t'en ai parlé parce que moi, ce truc-là, j'aimerais tellement y arriver. et j'y arrive pas, je ne comprends pas. Et tu m'as dit que toi, tu maîtrisais parfaitement le bullet journal à ta manière, certes, mais tu le maîtrises.
Voilà, je maîtrise parfaitement, c'est un bien grand mot. En fait, j'en ai entendu parler de ce principe de bullet journal. En fait, l'idée de ça, ça vient d'un livre aussi, la méthode bullet journal. Comprendre le passé, organiser le présent et définir l'avenir. Voilà le titre. C'est un livre de Ryder Carroll, un Amerloc, qui a pondu cette méthode d'organisation, très low-tech pour le coup. L'idée, c'est d'avoir un carnet et un crayon pour faire son journal et de créer des listes, ni plus ni moins, dans ce carnet, avec des bullet points. Alors, il y a tout un code que lui a défini, encore une fois, il a vendu son livre, donc il fallait bien qu'il remplisse son livre, mais j'ai gardé l'idée principale qui était d'avoir ce journal, et puis rapidement, en bon geek, je me suis dit, mais enfin, ça fait chier d'avoir un carnet avec moi, avec un crayon, alors que j'ai toujours un ordi devant moi ou au moins mon smartphone dans la poche. Du coup, et je crois qu'il y a une priorité au direct là.
Ah, il y a une priorité au direct. Et oui, merci Jean-Luc. Jean-Luc qui nous soutient toujours. Et ce qui est assez amusant, c'est que Jean-Luc, il vient de nous dire, hey, vous avez passé les 25 minutes, c'est peut-être la pause avec la méthode Pomodoro. Et pour nous faire une petite pause, ben, quoi de mieux que nous soutenir avec un super sticker. Donc merci Jean-Luc, ça fait extrêmement plaisir. Je pourrais mettre une page de pub, mais je ne vais pas vous mettre de pub pour faire la pause. On va discuter entre nous.
C'est un jingle Jean-Luc qu'il faudrait pour quand il fait les super stickers.
Attends, je peux te mettre. Voilà. Merci en tout cas, Jean-Luc. Je te laisse afficher jusqu'à ce qu'il s'efface tout seul comme un grand. Et à toi, Olivier.
Donc, oui, le bullet journal, donc, qui est cette histoire d'avoir un calepin et puis de tout y noter finalement, avec un carnet et un crayon. Moi, j'ai transféré ça dans un simple document doc. C'est assez low-tech aussi, pour le coup. J'ai un document doc qui m'accompagne, auquel je peux accéder, bien sûr, depuis n'importe quel ordinateur ou depuis mon smartphone. Et j'ai pas beaucoup d'entrées, en fait, dans ce bullet journal. J'ai une entrée pour chaque mois avec le mois comme un calendrier, quoi, le mois et chaque jour du mois, dans lequel je vais mettre des rendez-vous, des choses à faire, des choses à ne pas oublier. Et puis ensuite, je vais avoir une entrée quotidienne où je vais indiquer plusieurs choses. La première, c'est les trois tâches les plus importantes que je dois faire dans la journée. C'est-à-dire que c'est les trois choses les plus majeures à faire dans la journée, celles que, si je les réalise, feront que ma journée, de toute façon, sera une réussite. Et ensuite, je vais avoir une liste d'autres tâches qui ne sont pas suffisamment importantes, j'allais dire, pour faire partie des trois tâches du dessus. Et puis, je déroule comme ça. Chaque jour, je rajoute une entrée avec ma journée, mes trois tâches les plus importantes, et puis les autres tâches. Puis, les tâches que j'ai pas fait la veille, je les reporte, etc., etc. J'ai ensuite d'autres entrées, c'est les choses à faire plus tard et les choses à faire encore plus tard. Voilà, c'est vraiment très basique. Ça s'accompagne bien sûr du Google Calendar dans lequel je vais positionner mes rendez-vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un support où je rentre tout. Je mets toutes mes to-do listes. Et c'est quelque chose de suffisamment flexible dans le sens où on peut y entrer ce que l'on veut. Donc les entrées quotidiennes, les entrées mensuelles, mais aussi si on a envie de faire une liste pour prévoir le matériel de camping pour partir la semaine prochaine en camping, on peut faire une entrée liste de camping. L'avantage, c'est que la prochaine fois qu'on va au camping, on a déjà cette liste d'accessibles dans le bullet journal. Voilà, c'est un outil très très fluide que chacun peut s'approprier à sa façon et qui permet de tout entrer dedans et de ne rien oublier surtout.
Et est-ce que bien toi, t'es bon du... Comment ?
J'allais dire, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as tenté ou que tu tenteras.
Alors, moi, j'ai tenté plein de choses. Et ce qui est bien dans ta... Moi, j'aime bien l'idée du carnet et du stylo. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le papier, le crayon, en sachant que j'écris mal, c'est toujours très moche, mais j'ai toujours envie de me dire que ça va être très joli. Et quand tu regardes les bullet journals sur Internet, il y en a qui font des trucs, c'est des œuvres d'art, c'est pas juste un document classique. Et j'ai envie d'y arriver, et j'essaye de m'organiser. Moi, je t'en avais dit pendant la préparation, j'avais essayé avec Notion. Je trouvais l'idée intéressante parce qu'en plus, je pouvais le partager, mais finalement, Google Doc le fait très très bien, donc faudrait que j'essaye, je réessaye à nouveau de faire ta méthode qui semble toute très simple en soi, et c'est en ça que ça peut fonctionner. Si elle est simple, j'ai peut-être une solution pour mieux y arriver au quotidien. Donc ouais, moi j'aime beaucoup l'idée.
J'ai essayé avec le carnet et le crayon, hein, comme Colombo, comme dirait Didier. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait un outil de plus à se trimballer. Et puis, alors que finalement, on a toujours sous la main le smartphone. Donc finalement, c'est pour ça que je suis revenu finalement à cette méthode sur un document Docs tout simple. C'est vrai qu'on peut le mettre dans Notion, on peut le mettre dans n'importe quel logiciel de prise de notes. Ou dans n'importe quel traitement de texte, quoi, finalement. On peut le mettre sous Google Sheet si on. Tout dépend le masque et puis la façon dont tu souhaites l'organiser, quoi.
Et ce qui est bien avec l'informatique, c'est qu'on peut y mettre des espèces de petits rappels ou de choses qui viennent nous alerter, ce qui n'est pas possible avec du papier. Enfin, j'ai rarement vu mon carnet m'appeler, hein. Mais bon, on parle d'organisation, du coup on continue avec tous ces systèmes là, on a organisé notre temps de travail, on a organisé nos différentes tâches. Après, comment tu t'organises toi on parlait de mail, mais dans le travail on a plein d'outils dont des fichiers, parce que l'informatique est maintenant omniprésent, on reçoit des mails, des PDF, des fichiers. Comment tu les gères aujourd'hui dans ton quotidien professionnel? Est-ce qu'il y a des petites astuces que tout le monde pourrait utiliser facilement, que ce soit sur un Chromebook ou sur un autre appareil?
Alors avant, moi, les fichiers, je mettais tout dans des dossiers, des arborescences hyper complexes, avec beaucoup de dossiers, de sous-dossiers, etc. J'ai complètement changé cette façon de faire, c'est-à-dire que je n'ai plus que un ou deux dossiers, je crois que je dois avoir deux ou trois dossiers sur mon Google Drive, c'est tout. Une vie perso, une vie pro, et puis une archive poubelle, je ne sais pas quoi. L'idée, en fait, c'est que j'ai cessé de classer et de perdre mon temps à classer mes documents. Je prends juste le temps de bien les nommer pour être sûr de bien les retrouver. Et après, je fais confiance à Google et son moteur de recherche. Quand je cherche un document, je vais le chercher par date, je vais le chercher par nom, je vais chercher parfois par son contenu, et je gagne un temps fou, ne serait-ce qu'avec la touche tout du Chromebook. On commence à taper le début du nom dont on peut se souvenir du fichier, et puis instantanément, on le retrouve. Donc voilà, l'idée, en fait, moi, de mon espace de travail, en tout cas pour les documents, c'est que j'ai complètement arrêté de classer ça de façon minutieuse, comme dans une armoire dans laquelle on avait les dossiers suspendus. Non, maintenant c'est un gros fourre-tout, et Google va me chercher le document, le bon document au bon moment.
Ouais, tu vois, Mr. Robot nous le dit, j'allais le dire, Laurent. Il avait fait un article où, en gros, je vais sortir le titre, mais c'était Je ne range plus rien et je retrouve tout. Je ne sais plus si c'est ça, mais c'est un peu l'idée.
C'est peut-être cet article-là qui m'a donné envie de faire comme ça, je ne sais pas, peut-être.
Ouais, mais ça marche très bien, et l'article est top, allez le lire si jamais vous ne l'avez pas lu. En gros, c'est ça, il suffit de bien nommer tes fichiers, et encore, même si tu ne les nommes pas très bien, Google a une fâcheuse tendance à aller aussi chercher à l'intérieur de ton document pour trouver l'information. Donc des fois, tu te souviens juste un peu du sujet. Enfin, tu sais ce que tu cherches, mais tu n'as pas forcément les termes exacts, tu n'as pas le titre, tu n'as pas forcément, tu as juste à taper, et tu le dis bien avec la touche tout. Alors sur Chrome OS, c'est juste bluffant, hein. Quand tu ouvres la touche tout, tu ouvres une fenêtre sur la recherche Internet, et là, tu tapes ton texte. Et je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, j'en avais parlé, ils l'ont intégré dans Chrome OS, dans l'application fichier de Chrome OS. Tu peux également rechercher aussi bien en local que sur le Google Drive. et tu choisis dans le menu déroulant où tu veux chercher. Et c'est vraiment top. Et j'ai retrouvé des trucs que je cherche pas souvent. Tu peux rechercher par format, MP4, AVI, ouais, PDF. Ouais. Tu peux rechercher un peu tout dans File, vraiment dans l'application fichier. Tu as vraiment le filtre de recherche aussi qui vient se mettre par-dessus tout ça. Et moi, j'ai la même chose. Alors, j'ai créé grossièrement quelques dossiers comme toi et je mets dedans pour une semblant d'organisation pour pas mélanger vie pro et vie perso et j'ai même changé un petit peu là j'ai carrément deux comptes différents Google en fait j'ai le pro et le perso et malgré tout j'arrive à chercher dans les deux simultanément donc je trouve ça vraiment bien fait et je me prends plus la tête à chercher en fait et c'est vraiment bien je gagne beaucoup de temps à plus chercher
et puis à ne plus classer
un peu classé, ouais, c'est ça. À savoir, je le mets dans quel dossier, quoi.
C'est ça. Finalement, le seul temps à consacrer, c'est de bien nommer son fichier pour être sûr de gagner du temps au moment où on va le rechercher, quoi.
Ouais, et un peu dans le même esprit, on est tous condamné à recevoir des tonnes et des tonnes de mails. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Et y a aussi des techniques. Alors toi, tu en as une que moi, je n'arriverai jamais à faire. Comment tu organises ta boîte mail en tant que pro, perso, tu peux mélanger pro, perso. Comment tu arrives à organiser ta boîte mail pour t'y retrouver? Parce que là, tu vois, là, hier, je cherchais un mail. Ce n'est pas une boîte mail Gmail. J'ai cherché un mail sur un truc bien spécifique. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps à trouver ce qu'il y avait dans mon mail, quoi. Je ne savais plus comment c'était nommé. Je savais à peu près le terme, mais c'était pas tout à fait ça. Et le problème, c'est que ma boîte mail était pourrie. Comment toi, tu fais pour t'organiser?
Un peu de la même façon que pour les fichiers. En fait, j'ai deux principes. Le premier, c'est que j'ai pas de dossier dans lequel je range mes mails. Une fois qu'ils sont archivés, je les archive, point barre, quoi. Je fais confiance là aussi au moteur de recherche de Google pour aller retrouver le bon mail au moment où j'en ai besoin. Et le deuxième gros principe, c'est de ne avoir aucun mail dans ma boîte de réception. Sauf les choses que je dois faire. Donc, on revient au principe d'une tâche qui prend moins de 2 minutes ou moins de 5 minutes, on la fait tout de suite. Une fois que c'est fait, on peut virer le mail. Si le mail, c'est juste une information, je la lis et je l'archive. Et puis, si c'est une chose à faire, je prends la tâche, je la mets dans mon bullet journal et puis j'archive le mail. Voilà. Au moment où j'ai besoin de retrouver mon mail, je fais confiance là encore au moteur de recherche de Google dans Gmail pour retrouver facilement le mail, quoi. Il y a suffisamment de filtres, comme tu le disais, pour Google Drive pour pouvoir retrouver super facilement les emails, quoi.
Ouais, et c'est pas un stress de dire d'avoir tout le temps ce zéro mail toute la journée. Moi, je le verrais un peu comme ça.
C'est une satisfaction, au contraire. C'est une telle satisfaction parce que j'allais dire, c'est un espace qui se doit, de mon point de vue, d'être vide, étant donné que s'il y a quelque chose que je dois faire, c'est transféré directement dans mon bullet journal, quoi.
Ok. Il y a l'Ayatelium qui nous dit qu'il utilise Spark pour s'organiser. C'est une application que j'utilise pour mes mails également, qui permet de gérer lui-même certaines choses. Il y a des filtres qui sont très bien faits, effectivement, même dans la version gratuite d'ailleurs. Donc Spark Mail, mais je pense qu'ils ont plein de trucs derrière. Donc ouais, c'est une bonne solution. Merci l'Ayatelium.
Je vais le noter parce que je ne connais pas.
C'est une solution de gestion de mail assez intéressante. Moi, il y a un truc que j'utilise dans l'organisation, c'est la routine. J'aime bien les routines, moi. J'aime bien le pouvoir des habitudes. J'aime bien me dire, tiens, de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Je me lève le matin, je vais faire ça. Je vais le faire comme ça, parce que comme ça, je perds pas de temps. Typiquement, si je pouvais m'habiller toujours de la même façon, je le ferais aussi. Tu vois que j'ai toujours le même, comme tu vois Steve Jobs, tu le voyais avec son vieux jean et son col roulé, toujours de la même couleur. Donc tu peux dire, soit le mec il est crade, il a qu'une fringue, mais vu le pognon qu'il avait, je pense qu'il en avait plusieurs. Donc sa garde-robe est très très simple. Et moi je trouvais ça hyper intéressant de te dire, je me lève, je vais faire ça, je vais pas perdre de temps, je vais m'habiller de cette façon-là parce que de toute façon je m'en fous. Les gens m'aiment ou m'aiment pas, je serai comme ça, j'aime bien. Et donc du coup j'ai créé moi des petites routines. Et dans mes mails, la routine c'est pas de de ne pas avoir pas de mail, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, j'en ai 300, 500, 3000 qui sont non lus. Excusez-moi si je n'ai pas fait le travail qu'on m'a demandé, il est dans mes mails quelque part, ça c'est sûr. Mais ma petite routine, c'est d'aller chercher, typiquement il y a des personnes que avec qui je vais avoir des approches, des façons d'échanger très très rapides, et du coup ce mail-là, je vais le classer dans un dossier, et même si je ne l'ai pas lu, je vais d'abord classer dans un dossier, mais je ne mets pas de filtre automatique pour classer dans le dossier. C'est moi qui le glisse dedans pour que je me souvienne de l'avoir positionné là, et il a toujours cette petite bulle dans mon dossier à Jean-Claude, je sais qu'il y a un petit 1, lui c'est important, faut que je le fasse en fait. Mais je le lis pas tout de suite en fait. D'abord je range et après je lis. C'est bizarre hein, comme technique, mais je trouve ça intéressant. Et puis après mon job c'est d'effacer les non lus qui sont dans les dossiers que j'ai classés. Et ça me prend moins de temps, je sais pas, j'ai fait ça. Donc j'utilise des habitudes, des routines, enfin on en a tous un petit peu, hein, des routines. Tu mets ta chaussette gauche et puis ensuite ta chaussette droite, et puis après tu vas sur le terrain de foot, tu vois, les trucs comme ça quoi. Et c'est des choses que j'utilise. Alors j'utilise une application de temps en temps qui s'appelle Abivator, qui est une extension Chrome. Si vous voulez aller jeter un œil, pareil, je vous laisserai le lien dans les notes de l'émission. Et puis bon voilà, moi après j'ai essayé d'utiliser un outil, on en a parlé les deux, pour m'organiser, qui était Notion. Tu t'en sers un peu Notion ou pas du tout, Olivier?
En fait, non. Je connais, j'ai essayé, mais le fait d'avoir un outil pour tout centraliser, je ne sais pas pourquoi ça ne matche pas avec mon cerveau. J'aime bien, moi, dissocier les choses, c'est-à-dire que je vais avoir un outil qui va être Google Keep pour me servir de mémoire annexe, on va dire, où je vais mettre toutes les notes que j'ai à prendre, que toutes les liens ou les vidéos que je dois regarder, les liens d'articles que je dois lire, des listes, enfin peu importe, tout ça je le mets dans Keep, et j'ai on le disait tout à l'heure, mon bullet journal pour les choses à faire. J'aime bien séparer les choses et tout avoir dans un seul endroit, je sais pas, ça marche pas. Puis Notion, enfin, je trouve que c'est quand même un peu lourd. Enfin, c'est vrai que comme je le disais, hein, moi j'aime bien les choses assez simples. Donc j'ai trouvé une Notion assez lourde. Après, je peux comprendre que ça plaise et que ça fonctionne bien avec d'autres personnes, mais moi ça marche pas.
Oui. Alors moi je l'utilise, mais pas comme il faudrait l'utiliser. Je l'utilise plus comme un CRM, comme un où je vais stocker des informations que je vais partager autour de moi. Mais c'est pas des choses, effectivement, je l'utilise pas bien. La gestion de projet est exceptionnelle apparemment dessus. Enfin, c'est vraiment un outil qui me semble être vraiment hyper puissant, mais j'utilise à 0,2%, et je trouve trop compliqué pour un usage quotidien. Ça peut servir, il y a sûrement beaucoup de métiers. Alors moi, je le vois dans le marketing digital, ils en parlent tous en ce moment, enfin, depuis un petit moment déjà, mais je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde. Donc du coup...
J'ai peur que le temps d'apprentissage et le temps d'apprendre et de connaître l'application soit immense, soit énorme, et que du coup, je vais perdre l'opportunité d'optimiser mon organisation, parce que finalement, je vais perdre un temps fou à utiliser un nouvel outil qui va, ça se trouve, ne pas me convenir. Donc, c'est cette barrière à l'entrée, en fait, je crois, qui me freine le plus.
Tu vois, moi, je l'utilise un peu. Dans mon Notion, j'ai un endroit, c'est un petit calepin où je mets des notes de temps en temps, mais j'y retourne jamais. Parce que la prise de notes, c'est quelque chose qui est hyper important au quotidien, hein, quand tu es au téléphone. C'est pour ça que j'aime bien le papier crayon. Au téléphone, je fais beaucoup de gribouillis. Je sais pas si t'as déjà, si tu fais comme moi, tu as un post-it, puis tu dessines sur ton truc. Je trouve ça génial. Moi, j'ai un carnet, il y a plus de dessins que d'écriture. Hein. Mais c'est ma manière à moi de, de me stabiliser au téléphone. Donc, Notion, j'utilisais un peu comme un système de prise de notes. Et du coup, toi, pour la prise de notes, tu utilises quoi? Le post-it encore? Tu le mets dans Notion ou tu
pars presque, c'est le post-it un peu digital. Enfin, moi, j'utilise Google Keep essentiellement pour toutes mes notes. C'est vraiment l'endroit où je stocke tout ce que je ne dois pas oublier. Les liens d'articles ou de pages web que je veux lire, des réflexions, des idées, des listes, des images parfois. J'y stocke vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment, j'allais dire, mon deuxième cerveau, Google Keep. Faut pas que Google dépose le bilan parce que je perds la moitié de mon cerveau, là. L'avantage, je trouve, de Google Keep, c'est qu'on peut y accéder. C'est un peu comme Google Docs, c'est qu'on peut y accéder de partout. Depuis son Chromebook, depuis son smartphone, depuis l'ordi du boulot. C'est juste une adresse Internet. Donc, finalement, on y accède de partout. Et là aussi, on profite et on bénéficie du moteur de recherche Google, qui est très efficace. On peut là aussi s'amuser à libeller, à catégoriser les notes pour les classer et les archiver facilement. Et on peut utiliser des codes couleurs aussi. Moi, j'ai un code couleur pour savoir si c'est perso, si c'est pro, ou si c'est ça a trait à tel ou tel de mes patients. Donc voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise complètement quotidiennement. Si j'ai une liste de courses, je vais utiliser Google Keep. Si j'ai des recettes à rechercher, je vais les stocker dans Google Keep. Vraiment, voilà, c'est des utilisations que j'ai eues ce week-end, c'est pour ça que j'y pense. Hein, mais les listes de courses, les recettes de trucs que je devais faire. Et puis voilà. Le seul petit bémol que je mettrais à Google Keep, ce qui est dommage, c'est que les outils de mise en page sont vraiment... inexistant. On peut pas même pas mettre un texte en gras. Enfin, c'est un peu dommage. On peut pas utiliser de liste à puce. Il y a que la case à cocher de la to-do list qui existe. C'est un peu limité, quoi.
Ouais, effectivement, c'est un outil vraiment, c'est un post-it, quoi. C'est un outil très très simple et très basique. Alors moi, j'ai essayé d'agrémenter mon Google Keep parce que je l'utilise aussi tous les jours sur mon smartphone et ainsi de suite. Au-dessus, tu sais, tu peux mettre une image. Sur ton Google Keep, sur ta note en fait, sur ton post-it, tu peux mettre une image tout au-dessus. Et moi, je me suis amusé à créer des images avec Bayonai, c'est ma to-do en fait. Et là-dedans, en fait, dans ce post-it, il y a tout ce que j'ai à faire. J'en ai un autre, c'est programmé pour plus tard. J'ai fait une petite image avec programmé pour plus tard. Et en fait, il est plutôt joli mon Google Keep au final parce que j'ai organisé mes post-it en termes de couleurs, puisque tu peux mettre des couleurs différentes, mais aussi avec le petit visuel. Et sur l'ordinateur, c'est pas mal parce que ça fait un beau dashboard. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les listes à puces, pas les listes à puces, les cases à cocher, parce que ça raye directement. Donc, pour les listes de courses, c'est vraiment pratique. Tu peux partager également ton keep, enfin, ta note. Ça, c'est bien. Moi, je partage avec madame quand elle va faire les courses. Je suis en train de faire les courses, elle me rajoute, ah, j'ai oublié la moutarde. Hop, il y a la moutarde qui apparaît dessus. Je fais, ah, bon, j'y retourne, quoi. Et ça m'évite de partir, ou enfin je pense à un truc, et tu peux même rajouter des notes vocales d'ailleurs, je pense à un truc, je le mets dedans et c'est plutôt bien fait, ouais, c'est vraiment un bel outil, et comme tu dis il faut pas que Google le tue parce que ça marche super bien, et le moteur de recherche est aussi très très bien fait, hein. Puis la catégorisation parfaite également, donc et gratuit, encore une fois un outil très simple d'accès, gratuit.
Pour répondre à Alain qui dit qu'effectivement il a vu ou lu, moi aussi j'ai vu j'ai lu un article qui disait que ils allaient mettre en place la mise en page dans Keep, oui, mais sur smartphone, pas sur l'appli en ligne, donc dommage. Sur smartphone, j'ai vu que c'est apparu d'ailleurs sur la toute nouvelle version, on peut mettre des textes en gras, on peut enfin mettre des choses un peu en valeur, enfin des textes en valeur. Et pour répondre à Didier, oui, effectivement, sans énergie et sans réseau, toute cette belle organisation avec mon Bujo et mon Google Keep tombe à l'eau. Je ne serai pas très très bien organisé au fin fond de l'Amazonie, ça, je dois bien l'avouer.
Ouais, alors le Keep, tu peux t'en servir quand même, s'il a synchronisé une fois, il est fonctionnel, tu peux rajouter des choses, mais effectivement, pour la mise à jour sur le serveur, sans électricité, ou un petit panneau solaire, on va trouver une solution, t'inquiète Olivier, on va trouver, on fera une petite roue que tu mettras dans l'eau, elle tournera et ça fera l'électricité.
Ouais, je vais pédaler.
Ouais, voilà, ça marche bien aussi. Mais effectivement, on est de plus en plus tributaire à Internet et à l'électricité. Hein. Et la question, plus tard que jeudi dernier, j'étais dans un endroit où quelqu'un a percé un mur et a coupé le câble électrique EDF. Très bien, ça fait sauter tout le quartier. Sauf que moi, je travaillais et l'équipe avec qui j'étais travaillait aussi et sans outils, on s'est aperçu qu'on servait un peu. Enfin, la question, c'est à quoi on sert à ce moment-là? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Je l'aurais trouvé du travail, vous inquiétez pas. Mais effectivement, d'un seul coup, tu te dis, ouais, c'est plus compliqué. Mais bon, On y arrive, vous inquiétez pas, on trouvera des solutions. Cool, moi, bah, Google Keep, j'utilise beaucoup. Tu as mis dans les notes Cursive également. C'est une application Google que j'aime beaucoup parce qu'on peut prendre des notes manuscrites qui sont bien
faites. Pour les notes manuscrites, ouais.
Ouais, sur Chromebook avec le ça marche très bien sur avec un
dans stylet aussi, USB. Dans Keep aussi, on peut faire dans Keep aussi, on peut utiliser le stylet et faire des notes manuscrites.
Ouais. Exact, ouais, tout à fait, ouais. Et c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont plus moi écrire, bah je vais te dire pourquoi écrire c'est plus simple pour moi, c'est que quand j'écris, je mémorise plus les choses. Quand je les tape au clavier, je les mémorise pas du tout. Après c'est mon cerveau qui est peut-être mal fait, il est trop vieux et je maîtrise plus parce que je prends plus de temps pour écrire.
Mais je crois que t'es pas le seul, il y a eu des études là-dessus. Ouais. Après bon bah il y a Google, il y a plein d'autres solutions, hein. Il y a Evernote, le grand ancien, Notion, on en a parlé, Microsoft OneNote qui marche pas mal, puis donc Cursive pour les notes manuscrites effectivement quoi. Et ouais, tu voulais nous parler de focus et de concentration, justement.
Ouais. C'est ce qui manque un petit peu, je trouve, dans notre travail. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut se recentrer. Là, donc, on travaille un laps de temps, pas tout le temps de la même manière. Il faut se donner des habitudes de travail, des techniques de travail. Mais il y a des choses, et je l'ai abordé tout à l'heure, il y a des choses qui font qu'au quotidien, on est perpétuellement dérangé. Et ça, c'est nos smartphones qui font ça. Hein. C'est qu'ils sont là et malgré tout, ils nous servent énormément, j'ai rien à dire dessus. Je suis un adepte fan des smartphones depuis que j'ai ça. Ma vie a totalement changé. Par contre, elle est en permanence perturbée. Je ne peux pas être une discussion avec quelqu'un ou à échanger sans avoir un œil discret sur mon smartphone. Et ça, pendant les périodes de travail, mais c'est affreux. Il y a une chose qu'il faut faire, que j'essaye de faire, et c'est très très dur, essayer de le faire. T'essaieras de le faire, Olivier, si aujourd'hui tu gardes ton smartphone à côté de toi, c'est passer ton smartphone en mode ne pas déranger. T'as vu sur Android et Apple, il y a, quand tu slides vers le bas ton tiroir de paramétrage, t'as un petit bouton ne pas déranger qui coupe toutes les notifications. Et rien que ça, déjà, ça me sauve pas mal de temps de travail parce que, tu vois, ce matin, je tapais un article et 4-5 fois, mon écran s'est allumé. Je le mets pas, j'ai pas de sonnerie, j'ai pas de vibreur, mais il s'est allumé. Et les 4-5 fois, ça m'a complètement sorti de ma concentration. Et du coup, j'ai perdu le fil de l'histoire. Et du coup, mon article était beaucoup plus compliqué à écrire parce qu'à chaque fois, je recommence à réfléchir à ça. Et il y a une étude qui a été faite, il y en a plein qui ont été faites au Texas, dans une université au Texas, qui est assez amusante et qui explique qu'ils ont fait une étude sur plus de 800 possesseurs de smartphones. Et cette étude, elle montre tout simplement que, dès que tu as un smartphone à proximité, ta concentration, elle baisse drastiquement. Et c'est assez bluffant. Je vous ai mis le lien de l'étude, vous irez la lire si vous voulez, elle est assez intéressante. Et dans cette étude, ils expliquent même qu'en fait, ils ont mis des gens avec un smartphone à côté d'eux, en mode ne pas déranger. Malgré tout, leur travail n'était pas forcément bien fait non plus. Ils prenaient plus de temps parce que la réflexion était coupée. Et ceux qui travaillent le mieux, figure-toi, c'est ceux qui ont le téléphone dans une autre pièce, carrément. Donc, quand le téléphone n'est même pas à côté de toi, parce que même s'il est à côté de toi, en mode ne pas déranger, retourner, tu y penses. Inconsciemment, tu te dis, tiens, je vais regarder. Les moindres moments de réflexion, ces petits temps d'ennui que tu as qui sont hyper importants pour la créativité, pour aller plus loin dans ta réflexion, en fait, ils sont perturbés par « Ah, je vais louper quelque chose », tu sais. Donc, du coup, tu vas chercher ton téléphone. Et même si tu ne le prends pas, ça, c'est une horreur. Et cette étude est super bien faite. Je ne sais pas comment tu gères ton temps de travail avec un smartphone ou les notifications sur un Chromebook. D'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant. Sur mon Chromebook, j'ai ne pas déranger. La même chose que sur Android, en bas à droite, dans le menu rapide, paramètres rapides, il y a ne pas déranger, je l'active, mais très régulièrement. Et j'avoue que quand je le mets en place, ça change totalement ma façon de travailler. Je ne sais pas toi si ça te dérange en tant que moi.
Pour mon téléphone perso, je le mets en mode ne pas déranger. Par contre, j'ai pas le droit de le faire avec le téléphone du boulot. De par mon activité, il faut que je réponde quoi qu'il arrive. Donc malheureusement, je peux pas appliquer ce genre de choses.
Mais après, ton téléphone boulot, peut-être que tu n'as pas TikTok, tu n'as pas tous les trucs qui viennent te déranger.
Ah non, 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 mais bon, il y a les mails du boulot, il y a les appels du boulot, il y a le Teams, il enfin, y a autant de notifications que sur le téléphone perso. Il n'y a pas, y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Ouais. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas faire autrement.
Mais voilà, bon, je suis désolé. Bon, après, tu t'y habitues peut-être habitué.
Je ne sais pas si on s'habitue, parce que comme tu disais, ça casse un peu la baraque quand tu es parti à te concentrer sur un truc. Malheureusement, tu es obligé de reperdre du temps à te reconcentrer et pour te remettre à fond dans ce que tu es en train de faire, quoi.
Mais dans l'idéal, hein, l'étude, elle est claire. Elle dit simplement, même si ton téléphone est éteint à partir du moment où il est à proximité de toi, tu as envie de l'utiliser. C'est un peu une drogue. C'est le truc, tu ne peux plus t'en passer. Dans des grandes phases de travail, scolaire ou pas, balance-le ailleurs, mets-le dans une autre pièce. Si tu peux le faire aussi le soir avant de te coucher, de le mettre dans une autre pièce, c'est encore mieux. C'est pareil, ça te permet de rester focus sur ce que tu dois faire et de te concentrer sur l'activité que tu es en cours.
Une autre chose. Globalement, on est des gros camés, quoi.
Ouais, mais non, mais c'est clairement, c'est clairement ce que je dis au quotidien, c'est que c'est une drogue légale. C'est que tu ne peux plus t'en passer. On le voit, hein, les gens, ils cassent leur téléphone. 5 minutes après, ils vont en racheter un. Hein. J'ai cassé mon téléphone, je vais plus survivre. Si, parce qu'on arrive à vivre sans téléphone, quoi. Après, c'est plus compliqué maintenant. Mais voilà, quoi, c'est assez étonnant. Et ouais, on est gros ramé, ouais, effectivement. On vend de la drogue légale, c'est assez intéressant. Et j'utilise un peu le même concept sur quand je sais sur Internet, parce que tu sais, tous les sites web ont de la publicité, parce que c'est comme ça que le web arrive à survivre, et des bannières, des choses qui clignotent dans tous les sens. J'utilise le mode lecture de Chrome qui supprime tous les éléments perturbants quand tu fais une lecture, que ça soit de la pub, de la vidéo, que ça soit des photos, des images, peu importe, tout, les bannières, les frames, les cadres de gauche, de droite, les footers, les headers, tout ça, ça les vire pour garder que l'essentiel. Et tu es un peu comme sur un journal, en fait, un journal papier où tu n'as pas de choses qui perturbent l'article en plein milieu. Et moi, j'utilise le mode lecture très, très souvent en thème sombre, écriture blanche sur fond noir. Enfin, tu vois, le truc vraiment, genre un Minitel, ce serait pareil. Et je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Et ça me permet de mieux me concentrer. Ouais, bon, bah nickel. Bon, faites-le si vous ne l'avez jamais fait. Essayez une heure de mettre votre téléphone loin de vous quand vous avez une session de travail et puis de passer en mode lecture et vous allez voir votre travail, il va se faire en moins d'une heure. On continue. Ah oui, il y a Laurent qui demande une pause puisque 2 fois 25 minutes, donc une deuxième pause. Et Live Athenium, j'en remercie fortement. Lui dit c'est 20 euros la pause, hein. Effectivement, si tu veux une pause, Laurent, tu sais où, où mettre l'argent dans le cochon pour mettre la pause, et on fera une petite chanson, on dansera sur la table si tu veux.
Sinon, pour faire une pause, il suffit de bien respirer, Nico, c'est ça?
Ouais, et ça, c'est dur. Ouais. On en parlait au début dans la préparation de l'épisode là. Je te disais que moi j'ai du mal à respirer et toi tu me disais moi ça me vient naturellement. Respirer c'est plutôt naturel. J'ai pas le choix, j'ai essayé de pas le faire et finalement ça marche pas longtemps. Alors, au mieux 3-4 minutes et puis encore. Mais respirer de la bonne façon. Il faut savoir que respirer, quand tu travailles, quand tu as un élément important à faire, quand tu respires, quand tu t'entraînes à bien respirer, tu vas diminuer ton rythme cardiaque, tu vas diminuer la tension, tu vas te permettre au corps de calmer et de baisser les signaux d'alerte. Typiquement, quand tu fais une course à pied, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une course à pied, il faut savoir bien respirer parce que sinon ton corps ne va pas suivre, tu ne vas pas amener assez d'oxygène. Mais c'est la même chose pour ton cerveau. Elle permet donc bien respirer, ça permet de régénérer ton corps, ça permet d'oxygéner tes cellules, d'ouvrir le diaphragme. On en parle de plus en plus dans les entreprises. Prenez du temps pour respirer. Mais bien respirer, on inspire, on expire. D'ailleurs, dans le chat tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Didier Respirer qui nous disait dans le chat, ben bravo, tu avais lu le conducteur ou tu l'avais vu ou tout simplement tu sais respirer, ça c'est bien. Et ça permet aussi de supprimer le stress. Et bizarrement, il suffit de poser quelques secondes, tu réfléchis, puis l'idée va devenir tout seul. Moi, j'avais un prof…
Tu as des applications pour ça?
Ouais, j'ai des applications. J'ai des applications. J'ai des extensions. Il y en a une qui s'appelle Fresh Air. Qui te permet, en fait, c'est assez simple, c'est une page blanche, la page nouvel onglet de Chrome. En fait, quand tu l'ouvres, elle va elle va pulser, tu vois, elle va apparaître un espèce de halo, revenir et ainsi de suite, tout doucement. Il faut que tu respires au même rythme que le halo qui apparaît et ça dure quelques secondes et rien que ça, ça permet de te poser. J'en ai une autre, hein, j'ai Allen, pareil. Il y a des applications qui sont assez intéressantes. C'est à chaque fois que tu ouvres un nouveau onglet, il te demande de respirer. Avant que, enfin, tu vas sur une page web et il te dit « respire ». Et puis à la fin, au bout de quelques secondes, tu te dis « mais en fait, pourquoi je vais là-dessus ?» Parce que tu t'étais accompagné, tu vois, tu avais juste cliqué sur un lien qui t'a amené sur un autre lien, qui t'amène sur un autre lien, qui te fait perdre un temps infini et qui a même du stress. Tu sais, moi, c'est le syndrome BFM. En fait, tu as de plus en plus d'informations négatives qui arrivent et tu cliques, tu cliques, tu cliques. Et avec ça, en fait, tu te dis « mais moi, finalement, ça ne sert à rien que j'y aille parce que j'ai pris mon temps ». Alors, ceux qui arrivent à prendre leur temps, tant mieux. Ceux qui sont comme moi à pas prendre leur souffle entre deux phrases, c'est mieux de pouvoir respirer. Donc, Fresh Air, Allen, il y en a sûrement plein d'autres. Mais franchement, c'est plutôt intéressant. Je sais pas si toi, de temps en temps, tu pratiques l'auto, l'apport d'air supplémentaire dans ton corps.
Pas plus que ce que mon corps fait automatiquement.
Bon. Ouais, moi, j'en ai besoin.
Ça me fait du bien. Je veux dire, ça doit effectivement poser un petit peu. Il faudrait que j'essaye. Ouais. Écoute, j'ai pris note de l'extension Chrome Fresh Air. J'essaierai ça demain au boulot pour voir.
Tu vas voir.
Après, m'être pris la tête avec un client, tu sais.
Ouais, mais ça te permettra de pas. Quand tu auras tapé 4 fois ton téléphone sur la table, voilà, tu respires. Avant de le taper, tu respires. Tu dis finalement, c'est pas grave, c'est rien. Et ça marche bien, tu es la méthode zen, ça marche bien. Tu me le demandais tout à l'heure, on a pas mal de choses pour partager. Moi, j'écris beaucoup, 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 beaucoup d'articles. J'écris beaucoup de choses, le conducteur et compagnie. Tu me disais que toi, il y avait une solution que tu utilisais dans ton travail, dans le quotidien, qui t'avait changé pas mal la vie sur ça. Et je pense que après avoir bien écrit, bien réfléchi, c'est bien d'écrire correctement. Et toi, tu utilises une solution que... je vais te le dire quand même, elle n'est pas nouvelle dans le CKB Show parce qu'on adore cette solution.
Non, je sais, ouais, vous en avez déjà parlé tellement de fois, ouais. Mais bon, quand c'est bien, on ne compte pas. Donc effectivement, Language Tool, et c'est un indispensable, quoi.
C'est juste Language Tool. Ouais. C'est juste dans la version gratuite ou payante, peu importe, mais prenez la payante si vous pouvez.
On ne le représentera pas, mais enfin bon, voilà, on ne peut pas passer à côté non plus.
Voilà, avec ça, plus de fautes d'orthographe, plus de fautes de tournure de phrase, plus rien en fait, et c'est plutôt intéressant. Moi, j'utilise un truc, parce que je parle beaucoup, mais j'aime bien que les gens parlent beaucoup aussi devant moi, et des fois, je n'ai pas le temps de lire ce qui se passe sur un écran d'ordinateur, sur mon Chromebook en l'occurrence, mais je lis beaucoup de pages web. L'autre fois, je regardais chrome2.//. History, tu sais, tu vois toute ton historique de navigation dans ta journée et ça m'a fait peur. Il y a partout. Je fais, waouh, j'ai fait tout ça et je m'en rends et t'as le time code à côté 10h32, 10h32 et 13 secondes, 10h32, 14 secondes. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, des fois, il y a des articles que j'aimerais lire, mais ils sont tellement longs que j'aurais pas le temps de les lire. Je fais lire le web à mon ordinateur. Il me lit ce qui se passe sur le truc et ça me fait un espèce de podcast, un mini podcast de quelques minutes, toi, les articles c'est 2, 3, 5, 10 minutes et il me lit le truc et il y a des extensions comme Speechify ou même Google hein, maintenant qui a lancé ça qui te permet de lire correctement mais intelligemment, intelligible pour SSD, le texte et je trouve ça vraiment super bien parce que ça me permet de continuer à faire ce que j'ai à faire quand j'ai pas quelque chose d'important à faire mentalement parlant, hein. Si je passe l'aspirateur par exemple, j'ai pas besoin de je passe pas l'aspirateur s'il se passe tout seul, mais quand je fais un truc manuel en fait je peux écouter et plutôt que d'écouter un podcast, des fois j'écoute un article de presse d'un journal web. Je sais pas si tu le fais de temps en temps.
Non, parce que pour l'instant, les expériences que j'ai eues, les voix étaient trop robotiques. C'était pas assez naturel. Alors autant, le dernier épisode où j'étais présent, je parlais des livres audio que j'écoute beaucoup. Mais là, c'est des acteurs qui lisent et souvent, c'est très très bien lu avec plein d'intonations super. Enfin bon, les voix un peu robotiques comme ça, issues de... Enfin, qui lisent les pages web... j'accroche pas, en fait, j'arrive pas à rester concentré sur ce qu'ils lisent. Donc non, alors peut-être que ça a évolué depuis.
Franchement, c'est plutôt beau, hein. Mais même la fonction de Google intégrée au Chromebook, tu vas voir, tu peux choisir les langues. Et ce qui est intéressant, c'est que les voix, donc déjà maintenant, tu as plusieurs voix, hommes, femmes, évidemment. Mais tu as plusieurs tonalités homme-femme et c'est bien, tu as 3-4 différents, ce qui te permet d'aller plus ou moins dans quelque chose que tu as l'habitude d'entendre. Et tu peux aussi choisir la vitesse de parole, ce qui est plutôt bien, parce que des fois, comme tu le dis, c'est très robotique et du coup, c'est pourri quand c'est trop long. Donc du coup, tu diminues un peu le temps et d'un seul coup, c'est beaucoup plus fluide. Et maintenant, les points, les virgules, l'intonation sont apportés dedans. Donc quand il y a une question, c'est une vraie question. Et c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime beaucoup ça.
Il faudra que je réessaye.
Ouais. Alors, il y en a plein. Il y en a certainement des meilleurs que d'autres, mais franchement, c'est vraiment très intéressant.
Tu conseillais Speechify.
Entre autres, hein, j'en ai plusieurs et Speechify est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup celle de Google aussi. Hein. Et toi, tu me disais, alors je l'utilisais pas mal, mais tu me disais que tu utilisais un truc pour organiser tes idées, parce que quand on a beaucoup d'idées, des fois, c'est un peu compliqué de les organiser. Et tu utilises un système que j'adore. J'avais fait un article sur My Chromebook sur cette technique-là, qui est le mind mapping. Ouais. Quelle est donc cette petite bestiole?
Alors, on entend c'est, bien ça. C'est les cartes heuristiques en bon français.
Les cartes heuristiques. Ouais.
L'idée, c'est. Alors, je m'en sers essentiellement quand je cherche des idées ou quand j'essaie de réfléchir à un sujet assez de façon assez large. L'idée, c'est de mettre au centre d'une feuille l'idée principale et puis ensuite, avec des flèches, petit à petit, on va réfléchir, on va mettre des mots, puis on va progresser dans sa réflexion. Et puis, comme je zappe souvent d'une réflexion à une autre, bah, parfois, je vais penser à autre chose de connecter au même sujet, mais qui n'a rien à voir avec la branche que je suis en train de déployer, ce qui fait que on repart sur une autre branche, c'est pas grave. Et puis, parfois, on va y revenir, on va compléter comme ça au fur et à mesure. Puis, ça fait une espèce de gros nuage, tout ça, avec plein de flèches et de points. Donc, c'est le principe de la carte heuristique, du mind mapping. Personnellement, j'utilise l'application XMind, qui est malheureusement payante, mais qui est super bien foutue. Il y a plein d'applications de mind mapping gratuite. Hein. C'est vrai que celle-là m'accompagne depuis pas mal de temps et puis elle est vraiment bien faite. Elle existe en version web, elle existe en version Windows, elle existe en version Linux, donc directement compatible sur nos Chromebooks. Donc voilà, après, c'est la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi cette bête-là? Et puis finalement, je l'ai testé d'abord avec une feuille et un crayon. Et puis, ça m'a bien plu. Et du coup, alors, j'en fais pas tous les 4 matins, mais il m'arrive, quand je dois réfléchir à un sujet en particulier, de reprendre mes mind maps et puis de réfléchir comme ça. Ça me permet vraiment de partir dans tous les sens et puis sans rester bloqué à écrire un plan tel qu'on l'entend avec partie 1, partie 2, partie 3, etc. Là, on peut vraiment laisser aller son cerveau et puis partir dans vraiment évoquer toutes les idées qui nous viennent en tête, quoi.
Ouais, mais moi j'utilise ça énormément pour l'écriture d'articles, par exemple. Parce qu'en fait, j'ai un sujet de base, mais après, faut arriver à l'ouvrir et c'est pas toujours simple. Et donc, grâce à ces petites tentacules que tu viens, tu as un sujet principal et puis tu commences à avoir des tentacules un petit peu partout, des petits nuages un petit peu partout, ça te permet vraiment d'organiser. Et j'ai discuté, alors je sais pas si un jour je pourrais l'avoir sur le podcast, mais j'ai discuté avec un auteur de roman qui utilise ça pour écrire son roman. Ouais, en fait. Et c'est super simple. Il m'en a montré un. Alors, c'est quand il t'explique, tu as l'impression que c'est hyper simple. Hein. Mais il m'a montré un, alors lui c'est sur à l'ancienne, donc c'est sur un mur avec un peu enquête d'ailleurs c'est
avec des fils rouges ici.
Ouais, mais c'est presque mais c'est presque ça en fait. Et il montre ça, son truc il est énorme. Au début il commence, il y a rien, puis au fur et à mesure ça s'étoffe, et puis du coup d'un personnage qui apparaît, ce personnage il commence à lui mettre, et par code de couleur il commence à lui donner une couleur à ce personnage, une âme, qui il aime, avec qui il va, quelles sont ses idées politiques, comment il aurait pu aller, quelle voiture il a, et il crée ses personnages comme ça. Et ce qui fait que son truc, il est énorme à la fin. Mais ça donne un sens très rapide. Et il me dit, comme ça, j'oublie rien. En fait, parce qu'en fait, j'ai juste à suivre. Ah bah oui, il a telle voiture. Donc, d'un seul coup, je ne peux pas en avoir une autre dans mon roman, puisque c'est celle-là qu'il a. Et puis, son ami, c'est telle personne, ce n'est pas une autre personne. Ce qui permet de créer totalement son roman comme ça. Bon, après, il faut écrire autour de ça, mais ça lui permet d'organiser toutes les idées. Et dedans, en fait, il va l'amener dans les différents chapitres. Donc, tel personnage, il est mort. Donc, il pourra plus pu intervenir dans tel chapitre, mais il le saura. Et il est dans tel ou tel chapitre et qui a telle ou telle idée. Mais son truc, il est ouf. Hein. Il est pas très podcast et il aime pas trop parler. Donc, du coup, je sais pas si j'arriverai à le faire venir chez nous. Mais franchement, c'est assez impressionnant. Moi, je vous en avais fait un article sur comment organiser vos idées avec les cartes mentales sur My Chromebook. Moi, j'utilise GetMind, je crois, dans mes souvenirs, qui est une fonctionnalité gratuite qui marche très, très bien également. Allez-y, utilisez-les dans les brainstorming. Vous êtes à plusieurs, c'est génial. Tu peux balancer toutes les idées. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises idées. On balance les idées et puis on voit ensuite ce que ça donne, dans quelle branche ça doit aller. Et ça nous permet d'avoir vraiment plein de sujets à aborder sur un seul brainstorming et ça nous donne beaucoup de travail à faire derrière et ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, tu vois, le mind mapping de la personne que je connais qui écrit des romans, quand tu le regardes, c'est magnifique. Hein. À la fin, c'est une œuvre d'art. Hein. Et grâce à ça, moi, je suis très visuel. Dès que j'arrive à visualiser quelque chose, je sais tout ce qui s'est passé autour. Tu peux me le répéter 100 fois, je ne le saurais pas tant que je ne t'aurais pas mis dans le contexte. Et il y a un truc qui est génial, et tu l'as déjà entendu, un dessin vaut mieux que 1000 mots. Et moi, j'utilise beaucoup ça pour l'amener aussi dans mes mind mapping où je vais aller faire des captures d'écran, par exemple. Je vais aller sur mon Chromebook, bon, bah forcément, capture d'écran, tu utilises le raccourci classique, hein, Ctrl-Alt multi-fenêtre. Et tu viens coller ça dans ton mind mapping. Donc, les deux réunis, finalement, c'est des choses qui marchent très, très bien. Et après, le visuel, bah, moi, d'un coup d'œil, j'ai pas besoin. Tu vois, le conducteur, on le fait au format texte parce que derrière, ça devient un article. Mais en vrai, tu m'aurais fait un mind mapping, je l'aurais tout aussi bien compris, voire peut-être un peu plus. On aurait pu mettre des liaisons entre le point A et le point B plus facilement pour avoir une meilleure transition, par exemple. Je ne sais pas comment toi, tu le penses. Est-ce que tu rajoutes des captures d'écran? Est-ce que tu es fan d'images, tout ça, là?
Ouais, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je mémorise mieux un ensemble d'idées comme ça quand c'est organisé sous forme de mind mapping. Et surtout quand il y a des petits visuels ou des couleurs qui ressortent. Ouais. Et pour aller dans ton sens, tu parlais d'un dessin qui vaut 1000 mots. Effectivement, il y a les captures d'écran, mais je reviens sur Cursive. On va croire que je fais de la pub pour Cursive, mais enfin. Pour le coup, quand moi je l'utilise souvent en clientèle. Quand je dois faire un schéma, bah, je prends mon stylet et j'utilise Cursive et puis je crée un schéma devant le client et ça marche super bien. C'est un super moyen de communication.
Ouais, bah c'est toujours beaucoup plus simple. C'est clair que, en plus, si tu as des talents de dessinateur, tant qu'à faire. Hein. Alors, si tu n'as pas de talent, tu pourrais utiliser.
Non, c'est très moche ce que je fais, mais le tout, c'est d'appuyer et puis d'attirer le regard du client sur quelque chose de concret. Enfin, bon, bref, n'importe.
Après, c'est des. Mais non, mais c'est pas mal. Hein. C'est, de toute façon, ça marche toujours bien. Ouais. Et il y a Didier qui nous disait dans le chat, si tu veux faire des choses finalement, demande à une IA.
Ça va être on en discutait ensemble, ça va être la première rentrée professionnelle et étudiante qui va se faire sous le règne entre guillemets de l'IA, parce que finalement les IA génératives comme ChatGPT etc sont sorties l'été 2022 et finalement sont rentrées dans le quotidien du commun des geeks que au printemps et finalement ces IA, ces outils vont faire une rentrée fracassante à mon avis avec la rentrée que tout le monde va faire là sur le mois de septembre, parce que il faut pas se le cacher, hein, pour rédiger des mails, pour rédiger des posts de réseaux sociaux ou pour discuter sur des projets, pour avoir une aide à la prise de décision. Bref, les IA sont devenus des outils relativement indispensables maintenant. Alors, indispensable, c'est un bien grand mot, mais en tout cas très utile pour gagner du temps ou pour automatiser certaines tâches. Donc effectivement, la rentrée va être, à mon avis, sous le signe des IA. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nico.
Ah mais clairement, depuis que ChatGPT est vraiment rendu public en novembre l'année dernière, où on y avait accès, on l'a vu monter en puissance et du coup ça a généré d'énormes outils qui sont arrivés, de la concurrence, donc Google, enfin tout le monde lance son IA. Et moi j'adore, j'utilise énormément l'IA pour plein de choses. C'est presque devenu mon collègue qui a réponse à tout et qui m'ouvre l'esprit finalement. où je lui donne le plan, je lui dis, ben tiens, je vais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je le dis pas comme ça, mais c'est un peu l'idée. Qu'est-ce que t'en penses ? Et il me dit, ah, pour que votre résultat soit meilleur, il faudrait peut-être faire ça. Effectivement. Et là, je lui dis, mais oui, d'accord, mais comment je l'aborde ? Et là, il m'amène du sens. Et c'est juste bluffant.
C'est le côté dialogue qui est vraiment intéressant à explorer, je trouve.
Et ça marche surtout les emails. On l'a vu, ben là, il y a Google qui a beaucoup teasé là, dernièrement sur l'arrivée de Bard, non pas Bard, comment il l'appelle, Duet AI, je crois, dans Gmail, dans Google Docs, où tu vas pouvoir dire discute avec moi, write to me, un truc comme ça, ou write for me, je ne sais plus comment il l'appelle, ou sur Google Docs, tu vas pouvoir échanger avec lui, lui donner des idées pour avancer dedans. Mais c'est vraiment bluffant. Il y a des fois, il y a des tournures de phrases où au lieu de passer 2 heures à y réfléchir, je lui dis écoute, je veux dire ça, j'arrive pas à tourner la phrase, mets-le-moi en 4-5 mots, et tac, il te sort un truc, et tu dis mais oui, mais c'est évident, c'était ça que je voulais dire. Et comme s'il lisait dans tes pensées, ça me fait un peu flipper, mais bon. Mais de toute façon, tout ça, on va le voir ensemble, hein, Olivier, dans un prochain épisode, parce que toi et moi, on est hyper passionnés de ces nouveaux outils qui semblent être un avenir radieux, je pense, pour beaucoup d'entre nous.
Du coup, on vous prépare un épisode sur différents cas d'usage, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces IA génératives ? Alors, on s'est concentré sur les IA type texte, hein, Bard, ChatGPT et compagnie, ou Claude, Claude 2.
Claude, ah oui.
Ouais. Comment on peut finalement les intégrer dans notre quotidien ? Quels services ces IA peuvent nous rendre ?
Ouais, et ça va être hyper intéressant. J'ai vu le conducteur que Olivier avait déjà fait. Je peux vous dire que il y a du lourd. Voilà, merci Olivier, merci pour ce conducteur qui est somme toute très intéressant. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais juste remercier Laurent qui nous a mis tous les time codes en place, un travail que je n'aurais pas à faire et qui m'aurait pris plusieurs minutes, 30, 40 minutes à faire. Donc, merci à toi Laurent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais avant de nous quitter, on ne peut pas partir sans un coup de cœur. Et ce soir, on a un seul coup de cœur, et c'est toi, Olivier, qui l'a mis, et du coup, j'ai pas mis le mien, parce qu'en fait, je vais te rejoindre dessus, forcément, et je vais te laisser le dire, parce que ça me semble être la bonne conclusion à tout cet épisode, en fait.
Bah oui, parce que si on a eu l'idée aussi de cet épisode avec ces tips d'organisation et puis ces toutes ces astuces à utiliser au quotidien, c'est parce qu'on est, toi comme moi, fan d'un podcast qui s'appelle ReLife, qui est co-animé notamment par Guillaume Vendée et Matt, alias Prof du Web. Il y a un Julien qui les a rejoints depuis maintenant une petite année. Tous les trois depuis maintenant, pour Matt et Guillaume depuis plusieurs années, animent ce podcast qui est super intéressant. Tous les concepts qu'on a survolés aujourd'hui ont été au moins abordés, voire développés dans leur podcast. Donc oui, c'est un gros coup de cœur podcastique que ReLife, donc qui est pour moi un des podcasts francophones emblématique sur le sujet, en tout cas.
Totalement d'accord, j'ai appris plein de choses. Vous verrez, écoutez les épisodes, il y en a, donc par exemple la méthode Pomodoro, ils en ont parlé, mais ça fait l'objet d'un épisode entier, donc nous on l'a abordé, survolé, eux ils sont vraiment à la profondeur. Il y a plein de techniques, il y a plein de choses, ça peut aller de tout à rien, hein. c'est assez amusant, tu peux parler tech comme de low tech, on va t'expliquer comment te déconnecter complètement, ou pourquoi manger des carottes, je sais pas s'ils ont dit ça, mais ça pourrait être dans cet esprit-là, quoi, tu vois. Et le pouvoir des habitudes, par exemple, ils l'ont abordé également, je me souviens d'un épisode où
le Bugeaud, la méthode GTD, Eisenhower, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui a été au moins une fois abordé dans les épisodes de ReLife, donc gros coup de cœur à eux, et puis j'attends avec impatience leur rentrée aussi, puisque je crois qu'il y a un épisode en préparation.
C'est ça. Merci Olivier pour tout ça, merci à vous tous, je vous souhaite une une agréable soirée, une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis, si vous voulez faire une pause, comme nous dit Live Athenium, c'est 20€. Merci Live Athenium, c'est trop gentil. N'hésitez pas. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez que le podcast perdure, n'hésitez pas non plus à le partager sur tous les réseaux sociaux. Un petit like, un retweet, un re-X, je ne sais pas, un Rix, une Rix, je ne sais pas comment on peut appeler ça. N'hésitez pas à le partager. Nous, ça nous aide beaucoup. Plus vous êtes nombreux, plus on est heureux. C'est pour la rime, hein. C'est mon côté artiste. Et merci en tout cas, Olivier. C'était avec plaisir que j'ai enregistré ce nouvel épisode.
Merci à toi.
Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée et à bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.
Bye bye à tous. The next day.